Ils exercent un métier essentiel, un métier de passion, de passeur. Partons à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui créent dans la cité des espaces de culture et de convivialité. Ils nous racontent leur parcours personnel, les valeurs qui les animent, les coulisses de leur profession. Écoutons-les, des libraires se livrent.
Portrait de libraire. Brice Torrecillas s'entretient avec Cécile Rivière, librairie Au fil des mots, à Blagnac.
Bonjour Cécile Rivière.
Bonjour.
Merci de nous recevoir au fil des mots, cette librairie du 18 de la rue Croix-Blanche à Blagnac. Je ne me suis pas trompée.
Non, tout est bon.
Alors, cette librairie, elle existait avant votre venue. Vous êtes arrivée en 2019.
Oui, alors moi j'ai commencé à travailler en 2017 ici. D'accord. Pour Magali et Vladimir Moscovici qui ont ouvert en 2013.
Voilà, alors donc c'est Magali et Vladimir Moscovici qui sont partis dans le Gers pour ouvrir une librairie, la librairie Buissonnière,
hein,
c'est
fait.
Bien ça. Alors, vous étiez employé, mais auparavant, quel est votre trajet de futur libraire?
Alors moi j'ai commencé par des lettres, j'ai fait une classe préparatoire de lettres à Toulouse, une licence lettres modernes, et je voulais être enseignant-chercheur en lettres modernes. Mais finalement, j'ai trouvé que la librairie, ça allait mieux, le côté gestion d'entreprise qui me plaisait, donc j'ai dit bifurquer vers une licence professionnelle librairie, et j'ai été embauchée à Priva de suite après, puisque c'est là où j'avais fait mon stage.
Vous avez travaillé longtemps chez Priva ?
5 mois au total. C'était une super expérience.
Ah oui, racontez-nous.
Ils m'ont formé, ils m'ont tout appris. Et vraiment une équipe géniale. J'ai fait des rencontres, on se parle encore avec certaines personnes. Mais de cœur, enfin, adorable. Et j'ai tout appris sur la librairie là-bas. C'était vraiment un régal.
Et alors, qu'est-ce que c'est apprendre sur la librairie ? Quelles sont les qualités ou les erreurs à ne pas commettre ?
Voilà. Il y a beaucoup de théories qu'on apprend en licence professionnelle librairie. Alors la pratique, c'est tellement différent. Il y a la connaissance du monde éditorial, bien sûr, mais il y a toute cette littérature, il y a des nouveautés toutes les semaines, c'est génial. Et puis comprendre les tendances aussi, les tendances des clients, ce qu'ils ont envie de lire vers l'été, quand c'est un peu plus léger, par exemple, ce genre de choses. Et puis aborder la clientèle chez Priva, c'est une clientèle de centre-ville et avec des libraires passionnés. Je sais que l'équipe a changé maintenant, mais c'était quelque chose qu'on ne peut pas apprendre en classe et on est obligé de passer par un stage et par un travail en entreprise, ça c'est clair.
Alors, à l'origine, prépa-lettres, vous nous disiez, ça suppose forcément une passion pour la littérature.
Oui, déjà, voilà. Mais la littérature plutôt contemporaine, dès le début, moi en cours, de faire de la littérature de la Renaissance ou du Moyen-Âge, je ne sais pas ce qui m'intéressait.
Ouais.
Non, déplaise à Rabelais, mais je préférais tout ce qui est littérature contemporaine depuis les années 80. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. C'est vraiment le reflet d'une société à laquelle je suis plus familière, on va dire. Et il y a tellement de mouvances aujourd'hui dans la littérature. On peut faire tellement de choses. C'est sans fin. C'est ça qui est génial.
Quel nom se détacherait parmi vous?
Moi, ça a commencé avec Marguerite Duras. En première, je suis tombée amoureuse. Mais vraiment amoureuse de Marguerite Duras, parce que j'avais une prof de français qui était super. Et après, ça m'a donné envie d'aller vers le nouveau roman, vers des littératures un peu plus modernes, avec une écriture plus, on va dire, plus hachée, un peu moins dense comme on avait avant dans les littératures, plutôt du 18e ou du 19e.
Pas balsacien, mais...
C'est
voilà.
Ça, oui.
D'accord. Et si on remonte encore, je suis curieux, excusez-moi, mais si on remonte encore les littératures d'enfance?
Ma mère m'a fait lire très jeune du Balzac et du Zola.
Ah oui, c'est pas vraiment des littératures d'enfance,
non,
mais tant mieux d'ailleurs.
Mais en même temps, je lisais aussi un peu de fantastique, parce que j'ai des parents séparés, donc j'avais deux lectures une semaine sur une semaine.
Ouais.
C'est ça qui était chouette, donc j'ai lu du Eragon, par exemple, en fantastique, comme j'ai découvert les Rougon-Macquart chez Zola, qui m'ont... j'ai adoré aussi toute cette dynastie qu'il y avait chez les Zola, l'idée de saga, puis on a bifurqué très vite sur Camus et Duras au lycée.
On pourrait évoquer votre toute première expérience en librairie cette fois, pas en lecture, en librairie.
Eh bien justement, c'était avec vous, puisque c'était à Priva, j'avais 14 ans je pense, donc dans l'ancien Priva, on va dire au sous-sol, et j'ai rencontré Amélie Nothomb, avec qui j'avais correspondu quelques lettres avant. Je lui avais écrit, parce que mon père m'avait lu qu'elle répondait à toutes les lettres. Donc, on va essayer. Lui, il lui avait envoyé une lettre aussi, mais elle m'avait répondu à moi.
Et vous étiez lectrice d'Amélie
Nothomb, donc. Oui, tout à fait, à 13 ans. Ouais. J'adorais justement cette écriture très hachée, très pure, où on vraiment compacte un peu tout ça.
On va à l'essentiel, oui.
Exactement. Et elle m'avait reconnue, elle m'avait dit, je ne savais pas si vous viendriez, justement. Elle m'avait même offert son livre Hygiène de l'assassin en coréen, parce que ma mère ne voulait pas que je le lise, je ne sais plus pour quelle raison, une sombre raison. Et elle m'avait offert aussi un livre d'Éric Emmanuel Schmitt, donc ça m'avait fait découvrir cet auteur. On avait une relation, ça m'a aidé, je pense, à traverser l'adolescence plus facilement.
Vous parlez de Nothomb ou de Schmitt, ou des deux ?
De Nothomb et de Schmitt, parce que l'adolescence n'est pas un moment facile, je pense, surtout quand on lit beaucoup, on est un petit peu à l'écart. Et je l'avais rencontré deux fois, une fois là à Priva, une fois à la FNAC, et les deux fois elle m'avait reconnue, et c'est un super moment.
Elle est très impressionnante, elle reconnaît tous ses lecteurs, tous ses lectrices, demande des nouvelles.
Exactement, elle savait, puis elle avait remercié mon père pour m'avoir enfanté. Ça avait vexé mon père un petit peu.
Pourquoi vexé ?
Il s'est dit, je fais autre chose quand même que faire des enfants. Mais elle a une présence qui est incroyable et puis elle met à l'aise, je trouve, d'emblée. Et c'est comme ça, en allant à Privas, en rencontrant un auteur, je me suis dit, mais c'est génial de faire ça, de pouvoir recevoir des auteurs et il faut que je l'invite ici. Il faut que je lui écrive une lettre parce que je me suis dit, pourquoi pas ? Ce serait vraiment super de lui dire, grâce à vous, en partie, maintenant j'ai une librairie.
Alors parlons d'Ophile Desmaux. Il y a de la littérature jeunesse, forcément, ici. Quels sont vos rapports avec ces jeunes lecteurs ? Et d'abord, on dit qu'on lit moins. Est-ce que c'est le cas ?
C'est difficile. Moi, je trouve qu'on lit... Ici, ils lisent beaucoup. C'est des gros lecteurs, donc on a vraiment cette chance-là. La littérature, c'est une grosse partie de la librairie. C'est à peu près 25-30%. Donc, mon employé est spécialisé jeunesse. Au début, ça m'effrayait un petit peu, la littérature jeunesse, parce que c'est des parents qui viennent choisir pour leurs enfants. Donc, c'est pas évident. Mais on apprend à les connaître et ils ont une envie, je trouve, ils sont innocents un petit peu, les enfants. Ils n'ont pas d'appréhension sur le monde, ni le monde des livres, ni le monde en général. Mais c'est vrai qu'on a tendance peut-être un petit peu à les perdre à l'adolescence, où ils vont faire d'autres activités et on les retrouve vers 20-25 ans.
Alors, au-delà du rayon jeunesse, comment se répartissent les librairies ?
Alors, on a beaucoup de littérature, forcément littérature française. Moi, j'aime beaucoup la littérature américaine, anglo-saxonne. On a du polar aussi, qui est un de mes rayons préférés. Et des sciences humaines que je développe pas mal, avec de la philosophie aussi. Et la sociologie, qui, je pense, est ma partie préférée des SHS. Et on a aussi de...
SHS
Sciences humaines et sociales, pardon.
Voilà. Non,
c'est une
formation.
Oui,
il faut le préciser.
Et on a aussi, tout le... Comme on est généraliste, on essaie d'avoir un peu de tout, du bien-être, aussi développement personnel qui fonctionne très bien depuis 3-4 ans, et un peu de cartes postales, d'objets cadeaux, de papeterie, voilà.
Et comment se fait le conseil ? Est-ce qu'il y a un aspect militant de votre part ? Vous parliez de sciences humaines, par exemple. Est-ce que vous avez tendance à mettre en avant ce qui pourrait défendre, si ce n'est vos opinions, mais en tout cas ce qui vous tient à cœur ?
En sciences humaines, oui, il y a le féminisme, forcément, donc je les lis, je les choisis. Quand on me demande des conseils, je suis ravie, parce qu'au moins, je peux aller piocher plein de choses. Quand il y a eu Sorcière de Mona Chollet qui a explosé, par exemple, c'était des journées super de pouvoir conseiller ce type de littérature. Mais c'est plutôt des conseils en littérature adulte qu'on va avoir. Donc on essaie forcément de conseiller nos coups de cœur, et on essaie de lire des petits éditeurs. Parce qu'on sait que les autres, ils n'auront pas besoin de nous forcément pour se vendre.
Et ça fonctionne ? Les gens sont
oui,
à l'écoute ?
Ça fonctionne. On a vraiment des livres qui ressortent et je pense qu'ils, des fois, ne se vendraient pas sans le conseil du libraire. Et c'est là où on sert à quelque chose, où on a besoin de nous, libraires, on va dire, pour vendre ce livre qui a une couverture peut-être pas forcément attrayante au départ, où le résumé, c'est trois lignes, ça arrive chez certains éditeurs. Et nous, on va lire, on va avoir le coup de cœur. Ça me l'a fait avec Le démon de la colline aux loups.
Alors, parlez-nous de...
du tripode.
Oui.
Qui est un livre qui est très difficile à lire, puisqu'il y a quand même de l'inceste dedans. Mais je l'ai conseillé, je sais que je l'ai vendu une petite dizaine de fois, et à chaque fois de voir des clients qui reviennent en me disant « mais c'est génial ». Là, j'ai une cliente qui m'a envoyé un mail hier soir en me disant « ça m'a fait pleurer ». Je trouve ça génial, parce que je pense que le livre, il n'aurait peut-être pas eu cette chance-là, on va dire, sans ça. Et je sais que beaucoup de libraires l'ont aimé, celui-là.
J'imagine qu'on développe des relations privilégiées avec ses clients quand on échange des choses aussi intimes qu'un livre.
Oui, alors nous, on les connaît par leur nom, parce que c'est un petit village quand même, Blagnac, qui a 25 000 habitants, mais on voit très souvent les mêmes têtes, donc on finit par les connaître leurs enfants. On a un couple, par exemple, de clients dont le mari est tombé gravement malade et on a eu énormément de peine. Et quand on l'a vu revenir à la librairie, Alors, c'était génial. C'est un peu comme nos voisins, comme nos amis. Et c'est ce qui me plaît dans une librairie de banlieue toulousaine qu'on n'aurait pas dans peut-être une plus grande librairie, par exemple.
À l'inverse, est-ce qu'il arrive qu'on soit agacé quand on voit partir des clients avec des livres qu'on n'aime pas, voire qu'on déteste ?
Non, pas forcément. Mais je me dis, tant qu'ils lisent, c'est l'important. Ouais. Qu'importe ce qu'ils lisent, au moins il y a un acte de lecture et puis ils reviendront, je me dis, après en disant bah, j'ai fini ça et moi j'irai vers mes chouchous un petit peu.
Vous avez parlé d'une employée, est-ce qu'on pourrait savoir de comment est composée l'équipe au fil des mots ?
On n'est que deux, il y a donc moi et Sophie qui a fait un master métier du livre édition jeunesse, qui avait fait un stage ici quand je travaillais encore pour Magali et Vladimir. Et qui est passionné. On n'est que deux, sauf à Noël où on embauche quelqu'un d'autre. Donc forcément, on s'entend très très bien. C'est une amie, c'est un peu de la famille aussi. Et je ne pourrais pas m'en passer.
Et là, vous dites que, enfin, vous disiez plus exactement que les rôles étaient plutôt répartis. C'est plutôt elle, la jeunesse.
Oui. Voilà. Mais après, on s'est conseillé tout le magasin toutes les deux, parce qu'on ne peut pas tout le temps être toutes les deux ensemble. Mais c'est elle qui va faire les choix en jeunesse. Elle gère vraiment indépendamment son rayon. Elle peut faire ce qu'elle veut avec son rayon. Si elle veut le réorganiser, il n'y a pas de souci. Et c'est cette confiance-là, je pense aussi, qui fonctionne bien entre nous. Mais je sais conseiller de la jeunesse et j'en lis un petit peu quand même.
On a parlé deux ou trois fois d'édition. On a cité ce mot-là. En tout cas, est-ce qu'on a un rapport avec les éditeurs directs qui s'établit ?
Quelques-uns. C'est vrai qu'on a de la surdiffusion, comme avec Christian Bourgois, qui est, une de l'équipe qui est venue. On essaie aussi de les connaître chez les éditions Sonatine, par exemple, comme on a reçu plusieurs fois des auteurs de chez eux. On a une très bonne relation avec Oxane, qui est la relation libraire. Petit à petit, on a quand même le représentant qui est au milieu de la chaîne du livre. Mais on essaie, et puis ça se fait avec les auteurs qu'on rencontre, et c'est encore mieux.
Et dans cette jungle, dans cette marée de livres, comment la libraire choisit ce qu'elle va lire le soir en rentrant chez elle ?
C'est pas évident. C'est vraiment pas évident, surtout que là, en janvier, on a une rentrée littéraire que je trouve est très très belle, avec plein de choses. Alors, mon bureau chez moi, il est inexistant, il est rempli de livres à lire. Mais je pense que c'est plutôt une intuition. Il y a des choses qu'on a envie de lire. Il y a d'autres, on connaît très bien l'auteur, donc on va se dire, bon, mais je fais confiance à l'auteur, je pense que ce livre-là sera bien. Ça me l'a fait avec Delphine de Vigan cette année, j'ai quand même lu un petit peu. En diagonale, c'était très bien, donc je suis très contente. Mais on essaie de lire des choses où les clients n'iront pas forcément, pour leur donner leur chance.
On évoquait la rentrée littéraire 2021. Est-ce que vous auriez des exemples de livres qui vous ont tenu à cœur, qui sont inattendus sans doute, mais que vous avez souhaité défendre ?
Oui, parce que ça a été une très très belle rentrée littéraire. Donc on a eu Le démon de la colline aux loups, dont je vous parlais tout à l'heure, aux éditions du Tripode, qui est un texte très difficile mais magnifique.
Très difficile pourquoi ?
Parce que c'est l'histoire d'un enfant, d'une enfance inhabituelle, on va dire, racontée depuis la prison. C'est un chroniqueur judiciaire qui a écrit, c'est son premier roman. Et c'est avec les mots d'un enfant qui n'a pas beaucoup, enfin d'un adulte qui n'a pas beaucoup de langue. Il y a une scène d'inceste, je préfère prévenir mes clients quand je leur en parle, parce que ça peut des fois un petit peu rebuter. Mais c'est incroyablement beau, c'est très brut, et on a envie d'aller jusqu'au bout, on a envie de comprendre cet enfant-là. Et tous les clients à qui je l'ai fait lire, en les choisissant, on va dire, précieusement, ont été d'accord avec moi. Et je sais que d'autres journalistes aussi, j'ai entendu Au masque et la plume, qui le défendaient. Et c'est un texte, le texte dont on ressort en se disant « mais c'est fou ce que je viens de lire et je ne sais pas quoi lire après ».
Vous êtes arrivé à ce livre comment ? Par pure intuition ?
Alors c'est ma représentante qui m'a envoyé un service de presse. Merci les représentants, et qui m'a dit il faut le lire, tu vas voir, c'est génial, les éditions du Tripode en général, je suis rarement déçue. Donc j'y suis allée après avoir lu quelques livres qui ne m'avaient pas trop intéressée, que j'avais arrêté. Et ça a été vraiment la lecture de soir à ne pas dormir, et la lecture coup de poing, comme on dit, la lecture bouleversante, vraiment.
D'autres exemples, s'il vous plaît ?
Alors, il y avait le Ladies Football Club aux éditions du Globe de Stefano Massimi, qui avait fait Lehman Brothers, donc c'est un texte, en vers libre, justement sur la première équipe de foot pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est des employés d'une usine d'armement qui vont jouer avec un prototype de bombe, donc qui est ronde. C'est très, très beau. Et un très beau texte, mais là, qui est sorti en mars, La Chambre jaune, le papier peint jaune, excusez-moi, qui est sorti quand même en 1913, mais réédité, de Charlotte Perkins, avec une femme qui sombre dans la folie en regardant le papier peint jaune de sa chambre dans laquelle elle est enfermée. Et le papier peint va prendre de plus en plus de place visuellement dans le texte. C'est un très bel objet.
Est-ce que lorsqu'on est libraire, on voit ses goûts évoluer ?
Oui, un petit peu, je pense aussi avec ce qui se fait. Moi, je lis plus de littérature française qu'avant, parce que forcément, en France, il faut y aller. C'est vrai qu'avant, je n'osais pas trop y aller. J'allais plutôt vers les Américains, qui
Pourquoi
étaient un peu ma zone confort.
Pourquoi vous n'osiez pas trop y aller ?
Parce que j'avais ma zone confort. Et être libraire, je crois que le plus dur, c'est sortir de sa zone confort. C'est d'essayer d'aller vers quelque chose où on ne serait pas allé au départ. Mm-hmm. J'avais un peu cette impréhension des Français, mais en fait, je me régale. Donc, c'est chouette, et c'est ce qu'on dit à nos stagiaires aussi en librairie, c'est qu'il faut aller vers quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de lire et se laisser porter. On découvre plein de choses super.
Alors, Cécile Rivière, vous êtes jeune, ça ne fait pas de doute, mais pour autant, il y a un travail de formation dont vous vous occupez. Vous recevez régulièrement des stagiaires.
Oui, cette année, c'est la première fois que je reçois un stagiaire de la licence professionnelle librairie, du coup, que j'ai moi faite. Et on essaie de recevoir un peu tous les stagiaires qui veulent venir pour leur montrer aussi l'envers du décor, même si c'est une ou deux semaines. Montrer que libraire, c'est pas juste lire des livres en buvant du thé toute la journée au comptoir.
C'est l'idée qu'ils en ont.
C'est l'idée qu'ils en ont souvent.
Ah, c'est vrai ?
Oui, mais c'est un métier assez physique. On porte des cartons toute la journée, on a des charges lourdes. Moi, je vais livrer à droite, à gauche, en vélo ou en voiture. c'est un métier passionnant, mais je pense qu'il faut être conscient aussi qu'il y a autre chose derrière.
Racontez-nous justement cette autre chose. On est là pour ça aussi, quitte à désacraliser un peu. Mais comme vous le dites, c'est aussi un métier de passion. C'est surtout un métier de passion.
C'est un métier de passion, mais il faut aimer. Moi, j'aime beaucoup la gestion d'entreprise. C'est pour ça que j'ai racheté une librairie à 24 ans. Mais il faut ranger tout le temps des livres. C'est vrai qu'on reçoit énormément de cartons qui sont très, très lourds. Donc, on finit par être musclé au bout d'un moment. C'est bien, c'est un métier physique. On bouge tout le temps, mais c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps assis à lire des livres. On n'a jamais le temps de lire des livres en fait en magasin. Voilà, c'est un métier qui a toute une autre facette. Je sais qu'avec le confinement, j'avais lu dans Le Monde, par exemple, que ça faisait rêver de plus en plus de Français. Le métier de libraire, c'est un métier génial, mais c'est vrai qu'on le fait par passion. C'est pas très rémunérateur aussi. Mmh. Il faut en être conscient. Les métiers du livre, c'est des métiers assez pas rémunérateurs, tout simplement. La marge est assez faible, mais on le fait et on est récompensé tous les jours de ce métier. On a la chance de
pouvoir... Par les relations humaines.
Les relations humaines, on peut lire des livres géniaux tout le temps. On reçoit des auteurs. Mmh. Là, on va recommencer les événements.
D'accord, parlons-en de ces événements.
On va recommencer pour l'instant timidement, tout doucement, avec des dédicaces en magasin. Bon, la semaine prochaine, on a une dégustation de chocolat.
C'est pas vrai.
Si, avec un chocolatier de Blagnac, Barrel.
Mais alors, ça veut dire que vous sortez du domaine du livre.
Tout à fait. Ils viendront ici parce qu'ils ont fait des chocolats de Pâques sur le thème du Petit Prince. Donc, ils ont un mouton du Petit Prince, par exemple. Ils ont un avion, ils ont un petit renard. Et donc, ils viendront vendre, en même temps que nous, on vendra le livre en magasin. Et après, on va recommencer des ventes. Là, j'ai un marché aux fleurs, normalement, qui devrait se faire à Blagnac. On va vendre des livres de jardinage. Ça va être très chouette. Et voilà, des dédicaces avec des auteurs qu'on voudrait inviter, qu'on a commencé à lancer les invitations, mais tout doucement.
Et j'imagine que ça fait partie des plaisirs du métier, de s'occuper d'une thématique et de trouver les livres qui s'y rapportent.
Ah bah oui, là, on fait une vitrine carotte la semaine prochaine. Voilà, parce qu'on a découvert que c'était l'emblème de Blagnac, la carotte. Il y a toute une légende autour de Blagnac. C'est génial, il y a même une confrérie de la carotte.
Bah, vous me l'apprenez.
Voilà, et donc on va faire une vitrine tout orange. On a mis des éditeurs dessus. Donc j'ai lu, par exemple, qu'ils nous ont envoyé que des livres orange. On a demandé à nos représentants de nous envoyer que des listes de livres orange et on va faire une carotte géante en papier mâché. Donc c'est comme ça qu'on change un peu du métier et du quotidien.
Restons avec les rencontres, des moments forts qu'il y a eu. Vous avez noué des liens privilégiés avec Toulouse Polar du Sud, je crois, avec le Marathon des mots, d'autres peut-être, j'en oublie.
Le marathon, c'est surtout ce qui m'a permis d'avoir des auteurs étrangers. On avait eu Jenny Zhang en 2019.
Ah, tout à fait, oui.
Et je m'étais régalée parce que c'est pile le type de littérature que j'adore. En plus, j'avais fait la traduction moi-même du coup de Jenny quand elle était venue. On avait bu un café avec elle et ça, c'est ce genre de rencontre que je pourrais pas faire toute seule. Mm-hmm. On va dire, puisque inviter des auteurs étrangers, c'est impossible. Et Polar du Sud, on se régale. Voilà, c'est les deux gros événements qu'on a. Après, là, on a un partenariat cette année avec Made in Asia. Donc, on vend deux livres qui sont en partenariat avec eux et qui sont présentés, mis en avant.
Quels auteurs ? Vous avez parlé de Toulouse, Polar du Sud, je suis curieux là encore.
Alors, on a reçu, c'était pas dans le cadre de Polar du Sud, mais R.J. Laurie, qui est mon auteur de polar préféré, vraiment, Pascal Le Saint. Après, on a reçu avec Polar du Sud, Kent Anderson et David Joy, pareil, des auteurs anglais, parce que comme je peux faire la traduction, ça a été que du bonheur à chaque fois, on va dire. Ils ont vraiment été... très ouvert et super sympa.
Vous avez fait allusion une ou deux fois, et comment l'éviter au confinement, cette période néfaste a entraîné un nouveau public vers les librairies, non ?
Nous, on l'a vu. Alors, on a ouvert aussi notre site internet marchand en octobre, en août, pardon, entre les deux confinements. Mm-hmm. Et après, pendant le second confinement, on a eu énormément de nouveaux clients. Les librairies, on a été au centre de l'attention pendant le second confinement. Et on a vu toutes ces nouvelles clientèles qui ne nous connaissaient pas, qui viennent de Toulouse, par exemple, ou des Sept-Deniers à côté, qui se sont dit, mais en fait, à 10 minutes à pied, j'ai une librairie, donc pourquoi pas essayer. Et ils ont trouvé ce qu'ils voulaient, puisqu'ils reviennent, apparemment.
Ah bah, c'est parfait, chouette. J'allais vous poser la question. On va réussir à fidéliser ces gens-là, oui.
Apparemment, oui.
Rien à voir avec le livre, mais je pose la question puisque j'ai découvert ça dans votre petite biographie. Vous avez une passion pour la couture.
Oui, oui, tout à fait. Depuis mes études, la licence 2, je pense, j'étais en lettres modernes, où j'ai commencé aussi pour une question de conviction éthique à faire mes propres vêtements, puisque je n'étais pas du tout d'accord avec la fast fashion et l'exploitation.
Qui est traité du reste dans plusieurs livres en ce moment.
Oui, voilà. Ça m'intéresse, j'étais contente de le voir traité et qu'on puisse sensibiliser le public à ça. Donc je me suis dit, bon, y a rien que je puisse faire à part faire mes propres vêtements. Et ça a commencé comme ça. J'ai beaucoup moins le temps de le faire maintenant, mais pratiquement tous mes vêtements sont faits main.
Et vous n'avez pas réussi à concilier ça avec l'univers de votre librairie, par exemple en
c'est
animant des ateliers couture?
C'est un projet de faire des ateliers, par exemple, pour faire des fourreaux chiki, qui sont des emballages cadeaux, justement, en tissu. Donc moi, je fais ça à Noël. Courage à ma famille, mais je leur emballe les cadeaux dans du tissu qu'ils peuvent réutiliser ou que moi je garde. Et donc fini le papier cadeau, ça je voulais le faire, ou des disques démaquillants réutilisables. Mm-hmm. Pour l'instant, ça n'a pas pu se faire, on essaie de le faire, mais on attend de sortir de tout ça.
Bah, c'est parfait, écoutez, on attend aussi, on croise très fort les doigts. Merci Cécile Rivière,
avec
au
plaisir.
Fil des mots, 18 rue de la Croix-Blanche à Blagnac, on sera ravis de revenir vers vous.
Merci.
Portrait de libraire, un podcast du Marathon des mots avec le soutien de Toulouse Métropole.